VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du mardi 24 mai 2016. Au sommaire ce soir.
Au Mali, le djihadiste Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi entend demander pardon à ses compatriotes pour avoir participé à la destruction des mausolées de Tombouctou, annonce faite à la CPI.
Au Kenya, les manifestations d'hier ont mal tourné. Au moins 3 civils ont été tués dans l'ouest du pays lors d'affrontements avec la police.
En RDC, les autorités interdisent une marche de l'opposition dans le Nord Kivu. Le but de la marche, protester entre autres contre toute prolongation de mandat pour Joseph Kabila.
Et Barack Obama au Vietnam, le président américain a prononcé un plaidoyer en faveur de la démocratie.
L'acteur américain Bill Cosby sera jugé au pénal pour agression sexuelle.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord, le journal.
Un djihadiste malien veut demander pardon pour les mausolées détruits à Tombouctou. Il est le premier accusé à vouloir plaider coupable depuis la création de la Cour pénale internationale. Maïlis Hegel.
Ahmad Al-Faqi Al-Mahdi était le dirigeant du groupe djihadiste Ansar Dine à Tombouctou au moment des faits en 2012. Son avocat a affirmé que ce Touareg malien veut être honnête avec lui-même et admettre les actes qu'il a commis. Selon son avocat, il va demander pardon à ses compatriotes pour avoir participé à la destruction des mausolées, patrimoine mondial de l'humanité. En 2012, pendant l'occupation du Nord malien par les djihadistes, au nom de la lutte contre l'idolâtrie, il avait détruit ou fait détruire à coups de pioche pas moins de 14 mausolées de saints musulmans de Tombouctou. Cela avait provoqué l'indignation à travers le monde. Les juges prononceront leur verdict autour de début juillet, à la fin du Ramadan. La défense et l'accusation estiment néanmoins avoir besoin de temps pour se préparer et visent le 25 août.
Au Libéria, des enquêteurs spécialisés dans la lutte contre la corruption et des policiers ont perquisitionné aujourd'hui les bureaux du chef du parti au pouvoir, accusé par l'ONG Global Witness de trafic d'influence au profit d'une compagnie minière britannique. Et Jacques Aristide.
Les officiers de la commission anticorruption se sont auparavant rendus au domicile de Varney Sherman, mais n'ont pas pu le perquisitionner. De jeunes militants du parti au pouvoir leur en ont interdit l'accès, d'après Jonathan Kaffa, chef de la commission présidentielle enquêtant sur cette affaire de corruption. Une affaire mise au jour par Global Witness dans un rapport publié le 11 mai dernier. Selon l'ONG, la compagnie Sable Mining a obtenu ou sécurisé des permis au Libéria, de même qu'en Guinée, grâce à des pots de vin. Au Libéria, plusieurs responsables du pouvoir ou leurs proches se seraient partagés près de 960 000 dollars entre 2010 et 2012. L'ONG accuse notamment Varney Sherman, qui était l'avocat de cette compagnie minière, d'y avoir participé. Sherman a reconnu avoir effectué des paiements pour la compagnie, mais a réfuté toute malversation, se disant prêt à coopérer dans cette enquête, mais pas avec la commission mise en place par la présidente libérienne Helena Johnson Sirleaf. Sable Mining a également nié toute allégation de corruption.
La session de relance du dialogue inter-burundais s'est terminée aujourd'hui à Arusha, en Tanzanie, mais les discussions ont été boudées par l'opposition. Il faut dire que le CENARED, plateforme qui regroupe la quasi-totalité de l'opposition, mécontent que ses membres aient été invités à titre individuel et non en tant qu'organisation, avait appelé ces derniers à boycotter les pourparlers de paix à Arusha. On en reparlera en seconde partie d'édition.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, a interdit la marche de l'opposition prévue le jeudi 26 mai pour, entre autres, dénoncer la décision de la Cour constitutionnelle permettant une éventuelle prolongation du mandat de Joseph Kabila. La Cour a récemment déterminé qu'en cas de report des élections prévues fin 2016, M. Kabila resterait en fonction jusqu'à l'installation d'un nouveau chef d'État.
Tension entre Kinshasa et Kampala, l'Ouganda s'est officiellement plaint auprès de la République démocratique du Congo suite au décès de 4 de ses policiers sur le lac Albert, à la frontière entre les deux pays. C'est ce que fait savoir le ministère ougandais des Affaires étrangères. Les policiers ougandais enquêtaient samedi sur des allégations de pêche illégale dans la partie ougandaise du lac Albert, lorsque des soldats congolais ont ouvert le feu sans sommation et tué les 4 hommes, soutient Kampala.
Génocide rwandais, le procès d'Octavien Ngeizi se poursuit à la cour d'assises de Paris. Le bourgmestre accusé d'avoir participé au massacre de 1994 dit ne pas avoir perçu de graves tensions ethniques jusqu'au déclenchement du génocide.
Au moins 3 civils ont été tués et 29 policiers blessés dans l'ouest du Kenya lors d'affrontements entre la police et des manifestants de l'opposition réclamant la dissolution de la commission électorale en amont de la présidentielle. Les précisions de John Lennon.
2 personnes ont été tuées par balle à Siaya, où les forces anti-émeutes ont tiré sur une foule utilisant les lance-pierres. À Kisumu, une personne est décédée d'une blessure à la tête alors qu'elle fuyait les gaz lacrymogènes. Hier, les leaders de l'opposition ont affirmé que plusieurs de leurs partisans ont été tués en divers endroits du pays sans donner des bilans précis. La coalition d'opposition derrière Raila Odinga et plusieurs organisations de la société civile réclament la dissolution de l'actuelle commission électorale qui avait organisé la présidentielle de 2013, remportée par Uhuru Kenyatta. Le résultat avait été contesté par M. Odinga, qui estime cette fois que cette même commission n'est pas en mesure de garantir l'équité du prochain scrutin présidentiel prévu le 8 août 2017.
Ajoutons que la justice kényane a inculpé au moins 13 personnes pour manifestations illégales, 9 à Nairobi et 4 à Kisumu. Nous sommes profondément préoccupés par l'escalade de la violence lors de ces manifestations. Eux ont eux aussi assuré les ambassadeurs d'une dizaine de pays occidentaux, dont les États-Unis, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni, ainsi que l'Union européenne, dans un communiqué commun.
Afrique du Sud, la fille de Desmond Tutu a été forcée de renoncer à la prêtrise dans l'église anglicane. Et pour cause, elle a épousé une femme. L'ancien archevêque, héros de la lutte contre l'apartheid, se dit triste. Il s'était déjà prononcé en faveur du mariage homosexuel dans le passé.
Sachez aussi que l'Érythrée célébrait aujourd'hui ses 25 ans d'indépendance.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, l'acteur américain Bill Cosby sera jugé au pénal pour agression sexuelle, a décidé ce mardi une juge de Pennsylvanie à l'issue d'une audience préliminaire, estimant que les éléments réunis par le procureur justifiaient la tenue de ce procès. Le créateur du Cosby Show a cependant encore la possibilité de plaider coupable et de passer directement à l'étape du jugement. Lors de cette audience préliminaire, il appartenait au procureur du comté de Montgomery, Kevin Steele, de convaincre la juge que les éléments du dossier justifiait la tenue d'un procès.
Dans un discours à Hanoï, ce mardi, Barack Obama a prononcé un plaidoyer en faveur de la liberté d'expression et de la démocratie et loué des liens entre les États-Unis et le Vietnam, anciens pays ennemis. Nathalie Barge.
Garantir les droits n'est pas une menace pour la stabilité d'un pays, a lancé Barack Obama dans un discours à Hanoï devant 2000 personnes, retransmis en direct à la télévision. Quand les candidats peuvent se présenter librement aux élections, cela rend le pays plus stable car les citoyens savent que leur voix compte, a poursuivi le président américain au lendemain d'un scrutin dont les candidats indépendants ont été écartés. Des milliers de personnes s'étaient massées sur le bord de la route par laquelle il a rejoint Air Force One, direction Ho Chi Minh Ville, l'ex-Saigon, lieu chargé d'histoire mais aussi poumon économique du pays. Avant de partir, il a retracé le rapprochement spectaculaire entre les deux pays depuis la guerre du Vietnam. Il avait symboliquement débuté sa visite lundi par l'annonce de la levée de l'embargo sur les ventes d'armes. Nous pouvons dire une phrase longtemps inimaginable. Aujourd'hui, le Vietnam et les États-Unis sont partenaires, avait-il déclaré.
Double offensive terrestre et aérienne contre les positions des djihadistes en Irak et en Syrie, avec un appui massif de la coalition internationale conduite par les États-Unis. Après Fallujah, hier, la base principale de Daesh en Syrie, la province de Raqqa, a été attaquée aujourd'hui. Ces assauts sont menés par les forces entraînées et soutenues par les Américains. Un premier bilan établi par l'Observatoire syrien des droits de l'homme fait état d'au moins 22 djihadistes tués.
Des images satellitaires montrent qu'une base aérienne en Syrie utilisée par les forces russes a subi d'importants dégâts à la suite d'une attaque du groupe État islamique. Ces images suggèrent que 4 hélicoptères et 20 camions ont été incendiés sur la base T4, aussi connue sous le nom de Tiyas, située stratégiquement dans le centre du pays, entre les villes de Palmyre et Homs. L'information provient d'une compagnie américaine spécialisée dans le renseignement. Moscou affirme de son côté que les dégâts existent. Existait depuis des mois.
À moins d'un mois du référendum sur la sortie ou non du Royaume-Uni de l'Union européenne, le nom du candidat républicain à la présidentielle de novembre aux États-Unis s'invite de nouveau au débat. Cette fois, ce qui fait buzz, c'est une image géante haute de plus de 4 mètres sur un mur de Bristol dans l'ouest du pays, où l'on voit Donald Trump et l'ex-maire conservateur de Londres, Boris Johnson, s'embrasser passionnément. Johnson a fait campagne pour le Brexit. Que dit soutenir Donald Trump ?
14 sportifs russes ayant participé aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008 ont été contrôlés positifs après de nouvelles analyses. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le comité olympique russe, juste avant que la Fédération russe d'athlétisme ne prenne la décision d'écarter des Jeux de Rio. En août, tout athlète russe pris pour dopage dans le passé. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com.
En bref, l'actualité économique en Afrique et ailleurs. Bagassi Koura.
Le Gabon va émettre un emprunt obligataire de 98 milliards de francs CFA dans les jours à venir, selon Jeune Afrique qui en fait écho. Cet emprunt aura une maturité de 5 ans pour un taux d'intérêt d'environ 6,5%. Le Gabon avait lancé des opérations similaires en 2014 et en 2015. Pénurie d'attiéké en Côte d'Ivoire. Depuis plusieurs semaines, les prix du célèbre couscous fait à base de manioc ont flambé sur la place du marché à Abidjan. L'attéké est le plat le plus populaire de Côte d'Ivoire et l'un des produits alimentaires les plus exportés du pays, rapportant plusieurs milliards de francs CFA chaque année. Selon la presse locale, les autorités s'activent à trouver une solution au manque d'attiéké. Grève illimitée dans la grande mine d'or de Tasiasa en Mauritanie. Les employés de la mine exploitée par la société canadienne Kinross dénoncent des mesures visant à réduire des avantages sociaux. C'est une information de Radio Okapi. En RDC, une délégation sud-africaine séjourne depuis vendredi à Mbujimayi pour prospecter des potentiels secteurs d'investissement dans la province du Kasaï oriental. La délégation est composée du consul sud-africain dans la région ainsi que de la conseillère économique de l'ambassade sud-africaine à Kinshasa. D'après des sources locales, l'Afrique du Sud envisage d'investir dans la rénovation de plusieurs centrales électriques de la province afin d'améliorer la desserte électrique dans la région.
Plein feu sur les stades, les sports avec Nicolas Pinault. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir Morgane.
Ligue africaine des champions, l'AS Vita Club disqualifié.
Ah oui, ce coup de tonnerre avec la décision de la Confédération africaine de football. Le club quinois, coaché par Florent Ibengué, a commis l'erreur d'aligner cette saison un joueur inéligible, en l'occurrence Idrissa Traoré, utilisé durant les matchs préliminaires de cette Ligue des champions. Ce joueur, qui évoluait au Stade Malien la saison dernière, avait été suspendu pour 4 matchs par le jury disciplinaire, mais n'en a purgé qu'un seul. V-Club avait pourtant aligné le joueur durant le tour préliminaire de la Ligue des champions contre Mafunzo, un club de Zanzibar. La CAF a donc fait appliquer l'article 10 de cette Ligue africaine des champions et a donc décidé de disqualifier l'ASV Club. Conséquence, les Mamelodi Sundowns, le club d'Afrique du Sud, dernier club contre lequel V Club avait joué avant sa qualification pour la phase de groupe, eh bien les Mamelodi Sundowns sont donc repêchés.
Le tirage au sort de la phase de poule de cette Ligue des champions.
Et oui, dans chaque poule, 2 clubs d'Afrique du Nord, 1 club d'Afrique de l'Ouest et 1 club d'Afrique australe. Dans le groupe A, Al Ahly d'Égypte se mesurera au WAC Casablanca, mais aussi à l'ASEC Abidjan et à l'outsider zambien, le Zesco United. Dans le groupe B, le Zamalek du Caire en découdra avec Sétif et Nimba du Nigeria et donc les Mamelodi Sundowns.
Coupe de la CAF, tout-puissant Mazembe et étoile du Sahel et s'évite en poule.
Autre tirage au sort effectué aujourd'hui au Caire, le tout-puissant Mazembe, qui a déjà soulevé 9 trophées continentaux, retrouvera dans le groupe A le Mouloudia Olympique de Béjaïa, les Young Africans de Tanzanie et le Medeama du Ghana. Dans le groupe B, l'étoile du Sahel, championne en titre, retrouvera 2 clubs marocains, le FUS de Rabat et le Kaoukab de Marrakech, ainsi que Al Ahly de Tripoli. Je vous rappelle que les 2 premiers de chaque groupe sont qualifiés pour les demi-finales de la compétition.
Et enfin, la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Les Toronto Raptors sont revenus à la hauteur de Cleveland dans la finale de la conférence Est des playoffs NBA grâce à leur deuxième victoire consécutive à domicile, 105-99. Les deux équipes sont à égalité, deux victoires partout dans cette série qui se dispute au meilleur des sept matchs. À noter Morgan, le pivot congolais de Toronto, Bismack Biyombo, il a été une nouvelle fois déterminant en défense dans la raquette, 14 rebonds et 3 contre. On vous rappelle que le vainqueur de cette finale de la conférence Est rencontrera le vainqueur de la finale de la conférence Ouest entre Golden State et Oklahoma City. Pour le moment, le champion NBA en titre est mené par Oklahoma, 2-1.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guiriec et chérubin Gaby Dorsil en votre compagnie. Place au dossier du jour, première escale à Arusha.
Fin aujourd'hui en Tanzanie, des premières consultations sur la crise au Burundi. Le gouvernement de Bujumbura était représenté, mais la session a été boycottée par la plateforme Sennared, la principale coalition de l'opposition en exil. L'ancien président tanzanien Benjamin William Mkapa, facilitateur dans le conflit burundais, va rencontrer au cours des deux prochaines semaines les protagonistes absents de la session pour poursuivre et achever les consultations. Mais que retenir de ces quatre jours de consultation? Eric Manirakiza a joint à Arusha le vice-président du Front démocratique au Burundi, Frodebu, Frédéric Bamvuginyumvira.
Le médiateur a dit qu'il avait l'intention de comprendre l'essence de la crise burundaise pour qu'il puisse y apporter une médication appropriée. Et puis après, il a dit qu'il entend aller rencontrer le président Museveni pour qu'il puisse échanger avec lui sur ce qu'il a compris de cette rencontre. La suite, c'est qu'il va convoquer une autre session avec la troisième semaine du mois de juin. Alors, il nous a demandé, les responsables de nos organisations, pour bien composer les délégations qui participeraient à cette prochaine session. Alors, il a aussi demandé à ce que nous préparions des mémos pour faciliter justement ce dialogue qu'il entend organiser au mois de juin.
Il y a le Sénared qui a boycotté ces consultations parce qu'elle n'était pas invitée en tant que plateforme Sénared. C'est une question levée aujourd'hui.
Bon, c'est vrai. Nous qui étions présents, nous avons plaidé pour que la médiation puisse consulter le Sénared. Et la médiation a promis de la rencontrer dans les tout prochains jours pour que tout le monde puisse être consulté avant cette session du mois de juin. À cette occasion de la prochaine rencontre, on pourra avoir la feuille de route qui doit orienter ces négociations qui viendront d'ici peu.
Est-ce que les négociations vont continuer à se dérouler à Arusha ou seront délocalisées ailleurs, à Bujumbura, tel que le souhaite le gouvernement de Pierre Nkurunziza?
Que ces médiations puissent être délocalisées d'Arusha pour être animées au Burundi, nous avons eu l'occasion de le dire en toute clarté à la médiation que de notre côté, du côté de l'opposition, nous ne sommes pas prêts à accepter d'aller à Bujumbura avant la signature d'un accord qui soit de la mise en application devrait être garantie par justement les organisations internationales et la médiation elle-même, sinon ce serait justement se tromper. C'est une illusion faire croire au monde que il y a moyen d'organiser ce genre de rencontre à Bujumbura. C'est impossible.
Est-ce que la question des délais reste prioritaire?
De toute façon, compte tenu de ce qui se fait au Burundi, compte tenu justement de la descente aux enfers de l'État burundais, je crois que l'urgence est là.
On écoutait le vice-président du Frodebu, Frédéric Bamvuginyumvira.
La Voix d'Amérique au Burundi, sur les ondes de la radio publique africaine, 93.7 FM à Bujumbura, et 107.1 à l'intérieur du pays et sur 89.4 FM au nord du Burundi.
Nouvelle histoire de malversation sous la transition au Burkina. Il y a quelques semaines, on parlait de l'affaire des parcelles indûment acquises. Cette fois-ci, c'est une révélation du ministre de la Sécurité, Simon Compaoré. 57 véhicules de la présidence du Fatso ont disparu à la fin de la transition. Le ministre demande à toute personne ou structure détenant les véhicules de les déposer à la police. Pour en savoir davantage, Bagassi Koura a joint Dieudonné Zungrana, le directeur du journal Aujourd'hui au Faso.
Le gouvernement a constaté la disparition de 57 véhicules du parc automobile de la présidence. Des véhicules qui ont été sortis du parc sans qu'aucun document ne soit établi indiquant la pollution ou l'affectation des dites voitures aux nouvelles autorités. Donc, le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, a donné 2 semaines à ceux qui garderaient ces véhicules par devers eux de les ramener pour les déposer soit au camp CRS basé à Dassaspo ou bien à l'ENARES, l'École nationale des régimes financiers.
Est-ce à dire que le ministre n'a pas une idée de ceux qui ont ces véhicules-là?
Non, vous savez que souvent, pour des raisons d'état, il peut arriver qu'on banalise des véhicules, c'est-à-dire qu'on change la plaque d'immatriculation pour permettre à certaines autorités de circuler librement. Je crois que c'est des pratiques courantes ici au Burkina Faso. Donc, sûrement, il y a eu ces cas-là. Et profitant peut-être de la situation actuelle politique où il y a eu un remue-ménage, certains ont garder les véhicules par devers eux, mais je ne pense pas que le ministre connaisse personnellement ceux qui ont gardé ces véhicules-là. C'est pour ça qu'il lance cet ultimatum-là aux contrevenants.
Il faut dire que c'est quand même la dernière révélation en date concernant les malversations sous la transition. Il y avait eu d'autres avant.
Bien sûr, il y a eu un audit de la transition où il a été démontré que près de 55% des marchés ont été passés de gré à gré, ce qui est au-dessus de la norme de l'UMOA. Bon, il y a eu aussi des irrégularités concernant ces marchés. Bon, donc il y a eu un certain nombre de faits qui se sont révélés lors de cet audit. Mais le dit audit est maintenant entre les mains de l'ASE et pour des suites judiciaires à donner.
L'organe de lutte anticorruption, mais pour l'instant, il ne s'agit que de spéculation puisqu'il n'y a pas d'action en justice.
Non, pour le moment, justement, les gens attendent quand même qu'il y ait quelques actions en justice parce qu'effectivement, pour le moment, justement, et concomitamment, il y a des gens qu'on libère. Et justement, aujourd'hui, la justice ne communique pas trop. Et ça fait que les Burkinabés, les citoyens lambda, se posent beaucoup de questions.
Dieudonné Zungrana, le directeur du journal Aujourd'hui au Faso.
Cap sur la Guinée, Global Witness accuse la compagnie Sable Mining d'avoir financé la campagne d'Alpha Condé en 2010 pour obtenir des permis miniers. L'ONG évoque des millions de dollars qui ont été versés à Alpha Mohamed Condé, fils du président guinéen, et à l'un de ses proches, Aboubacar Sampil. Comment ce rapport a-t-il été accueilli à Conakry? Idriss Fall a joint Ibra Traoré, administrateur de Guinée7.com, qui travaille beaucoup dans le secteur minier.
Bien accueilli par l'opposition guinéenne qui pense que c'est une preuve de la malgouvernance du président Alpha Condé. Et du côté du pouvoir, on pense que c'est un rapport qui a été commandité par des hommes tapis à l'ombre justement pour faire mal au président Condé. Il pense que ce rapport ne vise pas son fils, mais vise lui-même.
Les personnes incriminées, est-ce qu'elles ont réagi?
Le fils du président, Mohamed Condé, il ne s'est pas prononcé ouvertement et de manière claire sur cette affaire. Cependant, son père, le président Condé, au cours d'une conférence de presse, il a naturellement rejeté les accusations. Aboubacar Sampil aussi, qui est un homme d'affaires, en réalité le patron d'une société de mine qui s'appelle West African Exploration, donc qui était en affaire ou qui est en affaire avec Sable Mining. Donc lui aussi, il a rejeté les accusations.
Mais est-ce que Sable Mining a réellement eu des contrats miniers en Guinée?
C'est toute la question. Je rappelle que l'ONG Global Witness accuse Alpha Condé, son fils et donc l'homme d'affaires. Et il dit que Sable Mining a financé la campagne présidentielle du président Condé en 2010. L'ONG dit détenir des emails très compromettants. Mais le paradoxe, c'est que l'ONG dit qu'elle n'a pas de preuves sur la culpabilité du président Condé lui-même. Comment on peut dire que le président Condé il est blanc dans l'affaire? Cependant, vous dites que l'argent de la corruption lui a profité parce que c'est la campagne qui a été financée. Selon nos petites enquêtes ici, on se rend compte quand même que Sable Mining n'a pas en tant que tel des permis d'exploitation minière en Guinée. C'est plutôt West African Exploration qui a un permis ici. Pour le moment, Nous, nos enquêtes, nos propres enquêtes ne nous montrent pas que Sad Mining a un permis minier, contrairement à ce que l'ONG a fait.
Et dans tous les cas, les autorités ont ordonné l'ouverture d'une enquête alors?
Oui, le ministre des Mines a saisi son homologue de la justice, il lui a dit d'ouvrir une enquête, une information judiciaire. La justice donc est saisie. Et le président Condé, lors de la conférence de presse, a demandé l'aide de Global Witness pour que l'ONG puisse leur apporter des preuves de ce qu'elle a affirmé. Et le gouvernement guinéen veut aller vraiment loin. Il prouvait que le gouvernement guinéen, le président Condé, son fils ne sont pas mêlés à cette affaire.
Ibra Traoré, administrateur de Guinée7.com à Conakry.
La non-inclusivité de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, les entraves liées à son application et pourquoi le cantonnement des ex-combattants tarde à voir le jour. Telles sont entre autres les questions abordées lors de la conférence de presse que le secrétaire général du Front populaire de la Zawad, FPA, a animée à Bamako. Le point avec Kassim Traoré.
Jimmy, l'ex-rebelle ou Hassan Agmedi, tire le bilan de l'A1 de l'accord pour la paix en sa manière.
Nous avons fait des pas, mais malgré les bonnes volontés, malgré pas mal de choses, il y a beaucoup de blocages. Premier point de l'accord aujourd'hui, et toujours, c'est son inclusivité. C'est la participation de tous les Maliens. Donc pour moi, l'accord est en train d'aller tout doucement, mais il est entravé. Il est entravé par un manque de sincérité, par un manque de bonne volonté des partis, par un manque de vouloir d'une appropriation. Parce qu'il y a des gens qui veulent, des personnes qui veulent se l'approprier, en faire une chose personnelle. Je pense que c'est ça le problème de cet accord aujourd'hui.
L'autre grande difficulté de l'accord, selon le secrétaire général du FPA, est sa mauvaise vulgarisation.
Le deuxième problème de cet accord est qu'il n'a pas été très bien expliqué. Mais ceci commence à se corriger à travers l'ORTM, à travers les points qu'on explique tous les soirs. Quand on parle des partis, je pense qu'il faut que les partis comprennent qu'elles sont constituées de ces mondes, de ces Maliens. Qu'elles comprennent que des hommes et des hommes ou des groupes d'individus ne peuvent pas se mettre et essayer d'écarter d'autres personnes, surtout dans le cadre des préparatifs et dans le cadre des concertations vis-à-vis des solutions qui seront trouvées pour cet accord.
Les FPA et les MPSA sont désormais membres de la plateforme. Cela a été crédité par un document qui a été présenté à tous les partenaires. Mais aujourd'hui, la réalité est tout autre.
Je pense que l'importance de faire adhérer des gens à des partis, c'est de les faciliter à contribuer, à aider à trouver des solutions. Il ne suffit pas seulement qu'à chaque approche d'un CSA, qu'on fasse semblant que les choses sont réglées, mais quand les deux jours du CSA passent, c'est le même problème qui revient. On est en train de préparer des patrouilles mixtes, on est en train de préparer des contournements. Ceci ne peut en aucun cas être fait si les différents responsables des mouvements qui détiennent ces hommes sur le terrain, qui gèrent cette population qui a leur écoute, ne soient pas impliqués dans les différentes choses qui se passent à Bamako.
Pour ceux qui aident du cantonnement, les hommes du FPA sont prêts et leurs listes ont été remises aux autorités. Hassan Agmedi dit Jimmy Lex et Rebel.
Nous avons fourni, si d'autres n'ont pas fourni, si d'autres n'ont pas voulu fournir, nous les avons fournis. Nous avons fourni des tableaux de listes, nous avons fourni des noms de combattants, nous avons des armements, nous avons des personnes qui sont là, elles attendent cet accord, si cet accord veut démarrer, les gens sont disponibles, qu'ils avancent avec ce qui existe. Le mot de la fin est que nous avons eu un acquis incroyable, que Dieu nous aide à essayer de conserver cet acquis, de le faire avancer, parce qu'il y a d'autres choses que disparaissent qui nous attendent.
Pour une meilleure application de l'accord, les géants secrétaires généraux du FPA ne souhaitent que l'implication de tous les Maliens. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Salut les amis, ici votre gars Roger Montou de VOA Afrique. Retrouvez-moi la semaine prochaine en direct de Bamako au Mali. Les amis, RM Show sera diffusé en direct. Je serai là en personne avec les amis, les frères et sœurs maliens la semaine prochaine à Bamako. Appelez-nous au 001 202 619 3140 pour participer à l'émission et envoyez-nous vos SMS ou WhatsApp Viber au 001 703 350 37 31. Nous serons aussi en direct sur notre page Facebook VOA Afrique. RM Show en direct de Bamako, Mali. La semaine prochaine, ça va être chaud. Peace Africa.
On est à la fin de cette édition. Et on dit merci à Joselle Morissin qui a dirigé la mise en onde avec l'assistance technique de Wagner Robert à la console. Présentation Morgane Guériac et Chérubin Gabi Dorsil.
Ainsi va le monde aujourd'hui. On maintient la conversation sur Facebook. Dites-nous ce qui domine l'actualité chez vous. Partagez vos impressions, vos photos, posez des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24.
Écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. N'Djamena sur 93.1 FM. Kledou FM Bamako. Raga FM Goma. 96.5 Fraternité FM Parakou Bénin et bien d'autres encore, sans oublier sur ondes courtes. Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.